Ce podcast est rendu possible grâce à la Typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode.
Plutôt raisin ou pomme ?
Avec les deux.
Avec ou sans bulle ?
Les deux.
Génial.
Nous avons défini, sinon étudié,
le wine, le vin.
C'est la terre, c'est aussi le soleil.
Des champignons de vinesse.
Vicincio vit à 100 à l'heure. Avec sa femme Pascale, ils ont inventé leur métier. Vignerons, cidriculteurs, et même certains vendredis soirs restaurateurs. C'est vivant, ça respire la pomme, bref, c'est tout un univers au domaine Bordaccio. Eh bien, bienvenue dans La Voix des Vignes pour cet épisode un petit peu spécial. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ?
Ah ouais. Vicincio à Paul, du domaine Bordaccio, et l'un ne va pas sans l'autre, je suis jamais sans ma femme. Donc Pascale, voilà, qui tire un peu les ficelles et voilà, tout ça, c'est un projet mené à deux, c'est d'abord un projet de vie.
Ok, d'accord. Voilà. Et vous êtes implanté où ?
Ouais, on est à Jaxu, en Pays Basque, voilà, okay. À côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, donc un petit peu à l'intérieur des terres. Et alors c'est un petit domaine qu'on a créé tous les deux il y a 20 ans maintenant. Il n'y avait rien et nous on avait juste envie de revenir au pays, s'installer, faire un peu de vin, parce que c'est ce qu'on faisait un petit peu par ailleurs avant ça.
Okay.
Et juste envie de créer notre propre histoire sur la terre, notre terre natale. Voilà. Et donc ça s'est goupillé un petit peu tout seul au fur et à mesure des rencontres. Mais nos parents n'étaient pas paysans, n'étaient pas agriculteurs, donc on n'avait absolument aucun mètre carré ni quoi que ce soit. Donc on a mis la clé dans le démarreur avec une petite vigne, une vieille vigne qui était en appellation Irulegui, qu'on a toujours, voilà, qui est en 100% tanate, voilà, dans le sens de la pente, une vigne qui a été plantée dans les années 50. Ça a mis la clé dedans, mais après ça ne suffisait pas pour vraiment avoir un projet viable. Et puis ça n'ouvrait pas les portes de la banque tout simplement, donc il fallait trouver autre chose et dans les semaines qui ont suivi finalement on a trouvé des vergers, on s'est dit que tiens, on ferait bien un truc à boire avec ça. Et par contre c'était pas du tout adapté au projet qu'on avait en tête, parce que faire de la vigne ou du vin c'était aussi le travailler en bio, c'est comme ça qu'on travaillait par ailleurs, on se voyait mal revenir en arrière pour une question de d'avis personnel, voilà, de qualité de vie recherchée, voilà, bon. Et donc voilà, et c'était des vergers de Golden, Canada, enfin des choses comme ça, et on pourrait quasiment dire que c'était classé Céveso, hein, c'était voilà, abominable, et nous on connaissait rien à la pomme, et voilà, mais on a quand même pris le pari, parce qu'on s'est dit qu'il y aurait quelque chose à faire, voilà, soit on saute le pas, soit on le fait pas, là on s'est dit que allez, on verra bien après. On a... Tout de suite après, donc là, on a enclenché le projet. On s'est installé en tant que paysan, hors cadre familial. Voilà, puisque c'est comme ça qu'il faut dire. Et puis, on a vite remarqué qu'on n'y faisait pas gaffe, mais il y avait plein de pommiers dans le paysage alentour. Des vieux pommiers, des vieux vergers, des vieux arbres fruitiers dans les tours de prairie ou dans les parcelles en pente. Et tant que ça ne gênait pas le passage du tracteur, ça restait debout. Les vaches, les génisses, là, ou quelques chevaux des fois, des ânes, des troupeaux de brebis s'occupaient de la récolte qui vient quand elle veut, pas toujours quand on l'attend, pas toujours comme il faut. Mais en tout cas, ça produisait des pommes. Ça produisait des pommes qui étaient agréables à goûter. Et là... Je vous parle de ça, c'est les semaines, les mois qui ont suivi l'installation, quoi, parce que là, on s'est dit...
Ah, donc tout s'est fait en même temps, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a mis le pied à l'étrier et puis en avant, quoi, au galop tout de suite. Et donc là, on a compris que dans ce patrimoine fruitier local, il y avait quelque chose à faire, puisque ces arbres-là, tout le monde s'en foutait. C'est pas des arbres qui sont vraiment cultivés, ils sont là, et pourtant ils vivent bien. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien, et pourtant il y a des fruits. En plus de ça, ils mûrissent et puis ils sont bons. Donc de là, on a fait le constat tout simplement que dans un patrimoine fruitier local, on a des variétés qui sont adaptées aux conditions locales et qui donc ne tombent pas malades. Des variétés naturellement résistantes, ou du moins.
Ces variétés, c'est lesquelles ?
Waouh. Alors là, si on commence à les citer, ça va être la pagaille au complet. Okay. J'expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a quasiment une trentaine de variétés qu'on peut regrouper en une dizaine de familles. Voilà. Okay. Parce qu'attention, on a le regard complètement biaisé, surtout quand on aime bien le vin. Le vin, on identifie les cépages et puis on identifie les régions avec presque. C'est très simple. Mais ça, ça a été figé avec la construction des AOC. Avant ça, les paysans, ils ne faisaient pas uniquement ça. Ils acceptaient aussi qu'une variété puisse bouger d'un coin à l'autre, simplement parce qu'elle se démerde bien dans un coin, elle se sent bien. Mais pourquoi pas faire ça? Aujourd'hui, peut-être on y revient, mais en tout cas, pendant des millénaires, l'agriculture, elle a travaillé comme ça, des échanges de semences, des échanges de boutures, de plants, des trucs comme ça. Voilà. D'ailleurs, l'histoire de la pomme est très liée à cette culture paysanne, puisque finalement, il paraît que la pomme, le cidre, étaient très présentes autour des Pyrénées. Les Romains sont arrivés, ils ont cultivé ça, ils ont greffé tout ça, amélioré les variétés. Et puis après, c'est les marins, les Basques, les Galiciens, les Asturiens, les Bretons, les Normands, qui se seraient échangés pas mal de choses, des techniques, des savoir-faire et du matériel végétal, pour employer les gros mots. Voilà. Et du coup, voilà. Alors, je reviens... Je retombe sur mes pattes. Cette histoire de variété, elle est à prendre avec des pincettes. Parce que la nature ne fait pas les variétés telles qu'on fait les cépages en pépinière. On répète les mêmes individus par X. Enfin voilà, c'est finalement d'un individu, on en fait des milliers. Par le clonage, par même la sélection massale, finalement, c'est un peu ça. On ne part plus du pépin. La pomme, oui. La pomme, on peut repartir du pépin, et voilà, des pommiers comme ça, isolés, on ne sait pas exactement depuis quand ils sont là.
Il y a une constante évolution.
Exactement. Et puis, donc, il y a une notion de famille, de groupe variétaux. C'est-à-dire qu'on ne classe pas, comme les cépages, tout sur des étagères, bien notifiées, bien identifiées, tout ça. La pomme, elle est beaucoup plus vaste que ça. Voilà. Et on trouve des variétés identiques qui ont des noms différents, et des variétés qui ont des mêmes noms, avec des gueules différentes. Ça met un peu le bazar, mais c'est parce que le savoir-faire a été un petit peu oublié dans nos régions, à nous, c'est vrai. Donc à nous d'identifier tout ça, de rester très modeste et puis à l'écoute de ce qu'on peut trouver, autant en fruits, en arbres qu'en témoignages. Et là, l'aspect variétal, c'est pas toujours facile de le classer, de mettre des noms, mais par contre, si on ouvre les papilles et qu'on goûte, là on commence à s'éclater parce que il y a des pommes différentes qui ont des goûts un petit peu similaires, on peut les travailler ensemble, il y a des accointances, il y en a d'autres qui n'ont absolument rien à voir. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, on est parti de ce constat-là, on s'est servi de ça, c'est l'aspect paysan, l'aspect agronomique, des variétés qui ne tombent pas malades, ben, pour bosser en bio, ben, génial, allons-y. Il n'y a absolument aucun traitement sur nos vergers, voilà, à part quelques tisanes de plantes quand vraiment il y a besoin, par exemple un gros coup de froid, un gros coup de sec, voilà, je sais pas, des choses comme ça, un manque de lumière, voilà, des choses comme ça, mais c'est vraiment à rien, puis c'est que des plantes. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est la typicité. C'est pas les mêmes pommes que les copains à droite à gauche. Et là, c'est sympa parce qu'on peut tout mettre sur la table, goûter, et voilà, on ne fait pas du Coca-Cola.
S'amuser.
Chacun a sa personnalité et ses réalités.
Vous avez combien d'hectares?
On a à peu près 4 hectares à nous.
Okay. Voilà, que de pommes. Hein.
Que de pommes. Et puis à côté de ça, on a 2 hectares et demi de vignes. D'accord. Voilà. Et les 4 hectares de pommiers, ils sont plantés donc avec voilà, tout le panel de variétés que j'évoquais tout à l'heure. Bon, pour citer quelques noms, il y a toute la famille de Apes Chagara. Ça veut dire la pomme du curé. C'est un petit peu la même famille que Udare Chagara. Chagara, ça veut dire la pomme. C'est pour ça que ça vient souvent après le nom. Donc Udare Chagara, c'est la pomme poire qu'on trouve dans le Grand Sud-Ouest. Voilà, et qui a des... Enfin, qui, pour moi, elle est super celle-là. Elle a tout, les tanins, l'acidité, la structure, tout. Puis une aromatique de fou. Bon, voilà, et puis il y a Estica, il y a Peacha, il y a des Minchuri, il y a toute la famille des Gordinchuri. Voilà, Chouli c'est blanc, Gordine voilà, un peu dur, voilà. Bourdinga, qui serait peut-être le nom Bourdinga, Bourdine c'est le fer en basque. Est-ce que c'est une cousine de la pomme de fer qu'on trouve aussi jusqu'en Haute-Garonne ou même le long des Pyrénées? C'est possible. Il y a une pomme pyrénéenne qui s'appelle la Pébou. Ici on a André Denamari Chagara, ça veut dire la pomme de la Sainte Marie, c'est la pomme du 15 août. Et finalement, la Pébou, elle a un peu la même gueule qu'André Denamari Chagara, et elle mûrit bizarrement à partir du 15 août. Est-ce que c'est la même variété? J'en sais rien. En tout cas, c'est un peu le même groupe.
Comment vous avez réussi à recenser tout ça ou à comprendre tout ça quand on vient du monde du vin?
Eh bien, justement, quand on vient du monde du vin, c'est plus facile. Parce qu'on a juste envie de goûter les bons trucs et de les partager. Et pour faire ça, il n'y a rien à inventer. Tout est dans le fruit et tout est dans la santé de l'arbre qui a donné ses fruits, dans l'expression que cet arbre a bien voulu donner de son lieu, de son coin, de son sol, de son contexte. Voilà, après on goûte. Et puis il suffit d'être un petit peu curieux, comme on fait chaque année au moment des récoltes, on oublie tout. On essaie de ne pas trop oublier les conneries qu'on a pu faire, pour ne pas les refaire. Mais le reste, il n'y a pas de recette. On repart d'une page blanche, on goûte les fruits tout le temps. Voilà, en plus, c'est hyper bon. Donc voilà, on se fait plaisir finalement, mais on reste à l'écoute. Voilà. On élimine toutes les œillères, il faut que le regard soit large, et là, les fruits, ils sont riches, ils sont complexes, ils ont chacun quelque chose à nous donner de différent, à nous d'essayer de comprendre comment on peut les travailler, de se laisser un petit peu inspirer par ça, et puis après, ben voilà, c'est le travail dans le chai qui va accompagner tout ça, le phénomène de fermentation, d'élevage, qui vont faire que petit à petit, il y a des choses qui se construisent, des choses qui apparaissent, il y a des synergies entre telle ou telle variété, voilà, telle ou telle façon de les faire fermenter, voilà, il faut se laisser guider, voilà.
Et justement, si tu peux nous dire comment on fait du cidre et à quelle période tu commences à récolter tes pommes, avec la différence des raisins, voilà, si tu peux juste faire une rapide comparaison, ouais. Et puis après nous expliquer le process en gros.
Ouais. La question elle est chouette, parce qu'il y a déjà il y a 10 000 questions dedans, mais non, c'est en fait ça permet de comprendre pas mal de choses. Déjà, quand est-ce qu'on fait du cidre? À partir de l'automne. Ce qui me fait penser, ce qui fait penser à pas mal de cidriers, enfin de potes comme ça, que finalement la pomme dite à cidre, la pomme à cidre, elle n'a rien de différent de n'importe quelle pomme. Bon, elle n'est pas en plastique, ce n'est pas un truc qu'on trouve en supermarché, là, voilà, voilà. Elle a quelquefois une sale gueule, mais le délit de sale gueule, c'est bien de l'oublier, parce que des fois, on peut avoir un nez un peu tordu, avoir des choses super intéressantes à dire, voilà, et, ou l'inverse, j'en sais rien. Mais en tout cas, les pommes à cidre ont un seul point commun, elles sont mûres à partir de l'automne. C'est tout. Il y a une raison technique, c'est que pour faire du cidre, il faut du froid. Il faut que les phénomènes aillent lentement. Et le froid aide à cette lenteur. Si on fait du cidre avec des pommes qui sont mûres en été, André Dena Marichagara, en août, au 15 août ici, commence à essayer de faire du cidre, il faut avoir soit un bon frigoriste, soit un bon banquier pour payer les pots cassés. Mais en tout cas, pas tellement de conscience paysanne, quoi. On va contre nature. Voilà. Par contre, à partir de l'automne, quand les nuits sont fraîches, là, on peut commencer à travailler correctement. Ensuite, la clé pour faire du cidre, une fois qu'on a compris cette première règle de base, c'est que déjà, on ne fait pas de cidre avec des pommes abîmées, des pommes pourries, des sous-pommes, voilà, des pommes qu'on voudrait pas, dans lesquelles on ne voudrait pas croquer. C'est pas vrai. La pomme qui doit rentrer dans le broyeur ou tomber sur le pressoir, voilà, il faut qu'elle soit nickel.
Donc ça veut dire que c'est pas une pomme qui est tombée par terre, c'est une pomme qu'on va chercher sur l'arbre?
Non, c'est une pomme qui est tombée par terre, mais elle est tombée quand elle est mûre. Alors, on a une petite technique qui est simple. Au début, on a fait venir tous les copains. Les gros, ils secouaient les arbres. Et puis les autres, ils se pliaient en quatre et ils ramassaient les pommes. Et puis, au bout d'un moment, on a réalisé que les gros, on y tenait quand même un petit peu, mais on allait les perdre si on continuait comme ça. Donc, on a une grosse qualité, au moins une, c'est qu'on est vraiment des feignants. Et rien de tel qu'un bon feignant dans une équipe pour trouver la bonne idée. Et là, la bonne idée, c'était d'attendre que ça tombe tout seul. Voilà. Une pomme, quand elle est mûre, elle tombe. Voilà. Elle ne va pas tomber forcément au moment pile de la maturité, une maturité technologique. Quand on est inspiré ou déformé par le vin, on a la date des vendanges là, voilà, qui arrive là, c'est comme une guillotine, là, pff, ça coupe tout, ça coupe court, ou comme un sécateur plutôt, voilà, à la vigne, et puis on passe à autre chose. La vie continue, mais autrement, voilà, la récolte des pommes, elle est longue. Sous un même arbre, on va passer 10 ou 15 fois. Il y a des variétés pour lesquelles, entre le premier et le dernier passage, il va se passer allez, une semaine ou deux. Il y en a d'autres, c'est un mois et demi, presque 2 mois. Voilà. Parce que la physiologie de ces variétés-là est différente. Et parce que la maturité, enfin, ce que j'appelle la maturité du fruit, c'est l'expression du fruit. Alors, comment on fait ?
Juste... Ça va être ma question.
Ouais. En fait, on fait un premier ramassage début septembre. Juste pour enlever les pommes qui sont tombées à cause du vent, qui sont tombées parce qu'elles sont véreuses ou comme ça, ou parce que les arbres étaient un peu trop chargés à un moment donné dans l'été, ça lâche, ou il a fait un peu trop chaud, les pommiers ont lâché des fruits. Toutes ces pommes-là, elles ne sont pas à maturité. Mais on va s'en débarrasser en les ramassant, on les file aux chevaux, aux brebis, aux vaches et des copains, mais on les enlève du verger. Comme ça, quand on revient quelques jours après, à partir du 15 ou 20 septembre, là, on a nos premières variétés qui commencent à être mûres. Là, tout ce qui est tombé parce que c'était mûr. On les ramasse, on les trie, parce qu'il peut toujours y en avoir d'abîmé comme ça. Tout ce qui est abîmé, ça repart dans des cagettes qui vont voir nos amis les bêtes. Et tout ce qui va dans les cagettes pour le chier, c'est impeccable. C'est sain, à part se promener dans le verger, couper l'herbe ou travailler le sol comme ça, mais en tout cas, on peut croquer dedans sans se poser de questions. Voilà, c'est sain, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de chimie, voilà, c'est génial, c'est un bon fruit. Il est en maturité, commence à s'exprimer, il a des arômes, il y a du sucre, il y a de l'acidité, il y a des tanins s'il faut, il y a de l'amertume ou pas, enfin voilà, il y a des expressions différentes parmi chaque variété, mais en tout cas, voilà, ça arrive à l'expression. Et puis après, c'est propre. Propre, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de terre ou comme ça, on les ramasse au sol. À partir de l'automne, les vergers sont enherbés puisqu'on n'a pas retravaillé les sols depuis le printemps. Voir s'il fait très chaud en juillet, on va passer un petit coup de griffe, mais voilà, disons qu'en septembre-octobre, il y a de nouveau de l'herbe ici, ça pousse tout le temps. Donc voilà, ça tombe sur un tapis d'herbe. Quand même, après le tri, quand on les amène au chai, on va laver les pommes dans une sorte de piscine avec un remous, tout ça. Tout ce qui n'est pas de la pomme, c'est-à-dire un peu de terre ou des feuilles comme ça, voilà, ça tombe au fond. Et les pommes, elles arrivent sur un élévateur, c'est rincé avec de l'eau claire. Et là, il y a quelqu'un qui est encore là pour surveiller, faire un dernier tri. Parce qu'on n'est pas toujours à 100% au verger. Voilà, puis
il peut y avoir des loupés, des pommes qui sont passées.
C'est ça, exactement. Et puis on a une petite équipe de 6 ou 8, là. C'est toujours les mêmes, là. Ça, c'est des bons copains maintenant qui reviennent chaque année. C'est important que ça se passe bien. Parce que voilà, on fait ça pour être presque heureux de vivre. Mais au moment où on débouche les bouteilles, au même moment, on les remplit. Et cet aspect humain, cette convivialité, il faut qu'elle soit... Qu'elle soit tout le temps présente. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et elle nous permet d'ailleurs de faire le travail du mieux possible. Voilà. Déjà, si on est heureux de le faire, on le fait certainement mieux que si on y va
à reculons.
Ouais. Et donc voilà, ça, c'est vraiment les principes de base pour faire du cidre. Après, voilà, la pomme, elle est broyée, elle tombe sur le pressoir. Le jus, il va couler par gravité dans les cuves. La compote, du coup, qui est sèche, hein, cette pomme broyée, elle est raclée, elle tombe sur une sorte de tapis, ça remplit une remorque. Et là, c'est magique, on envoie ça chez nos potes qui ont des vaches. Elles en raffolent. Quelques mois après, on récupère du fumier. On le composte et retour à l'envoyeur sous les pommiers. Voilà. Comme ça, bon, on travaille en biodynamie aussi et la présence animale, elle est aussi permise comme ça. Voilà, on arrive à entretenir un équilibre entre l'animal et le végétal, voilà, comme ça, avec l'apport de matières organiques saines, comme ça, qui ont une certaine logique, une certaine histoire avec les parcelles. Et puis, voilà, il y a des animaux aussi. Ce qui est quantifiable, c'est quand on met un troupeau de brebis, voilà, l'hiver, là c'est facile à compter, on sait qu'on a mis X brebis dans telle ou telle parcelle. Ce qui est moins quantifiable, mais qui est certainement encore plus présent que les brebis, c'est toute la faune. Et voilà, l'autre jour, non, je ne vais pas le dire dans le micro, mais il y avait un jeune chevreuil, un petit fan, quoi, qui était blotti là au pied d'un pommier, dans l'herbe haute, parce qu'on a laissé l'herbe haute pour qu'il y ait une flore abondante pour les insectes, pour que les floraisons soient attractives, pour que ça puisse aller aussi sur les pommiers. Et puis en fait, j'avais pas vu, je voyais un truc marron. Je suis arrivé avec le broyeur juste à côté, au moment où je me suis arrêté, parce que je trouvais bizarre ce truc marron. Pouf, il s'est levé, il est parti, magnifique. Voilà, j'en aurais peut-être fait du pâté sans le vouloir. Mais voilà, parce que j'ai trouvé bizarre cette boule marron là, qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que c'était ça. Bon voilà, en tout cas, il y a une présence animale aussi qui est importante. Bon, elle est juste symptomatique, cette présence animale. Notre boulot, enfin ça c'est une des lucarnes qui nous montre un petit peu ce que nous permet le bon sens paysan. Je ne dis pas qu'on a que du bon sens, on fait aussi des grosses conneries, il n'y a pas de problème, mais on essaie d'en faire le moins possible. Mais en tout cas, quand on voit une flore riche, complexe, diverse, et que la faune aussi va de pair, là on se dit que voilà, c'est pas gagné, mais au moins c'est en passe de l'être. À nous de l'entretenir, parce qu'on peut flinguer ça très très vite. À nous d'entretenir ça pour que ça soit pérenne, voilà, qu'on puisse refiler ça après au suivant dans longtemps et pour longtemps après quoi. Voilà, mais il y a un équilibre comme ça qui est très important.
Je reviens au côté technique, mais une fois que la pomme est pressée et qu'elle arrive dans les cuves, la fermentation se lance toute seule. Et après, c'est bête, mais comment on a une bulle dans un cidre?
Alors, la fermentation, elle se lance entre guillemets toute seule. D'abord, il y a une phase très importante qui est une phase de clarification. En fait, j'explique en deux mots. Si on fait rien sur le jus après le pressoir, le jus, il est trouble. La pomme, elle est surtout des pommes comme ça, elles sont ultra riches en micro-organismes. Il y a plein de levures, il y a plein de bactéries, tout ça qui sont sur les fruits, qui se retrouvent donc dans les cuves. Ce qui nous intéresse, c'est les levures qui sont capables de transformer le sucre en alcool. Les levures, alors, je ne sais pas quelles sont les souches là, mais en tout cas, c'est que des levures indigènes. Elles sont capables de travailler, mais elles n'aiment pas trop le froid. À partir de 10-12 degrés, elles commencent à travailler. Donc, comme on a appris ça des vieux, et puis voilà, on essaie d'être un minimum malin, on refroidit un peu les jus. Quand ça, c'est autour de 8 degrés, c'est les enzymes qui vont travailler, qui vont éclaircir les jus naturellement. Cet éclaircissage, en fait, cet éclaircissement, je ne sais pas, ce soutirage qui va être permis, en fait, c'est que la pomme, elle est très riche en pectine. Pour faire des gelées de pommes, c'est très facile. Voilà, ça gélifie facilement. Cette pectine, les enzymes vont la dégrader et vont permettre ce dépôt. Voilà, dans les cuves. On soutire le jus clair qui, lui, va partir en fermentation. Et tout le trouble, on le met de côté, on va le travailler différemment pour en faire après plein d'autres choses, soit des cidres à distiller pour faire des eaux de vie, soit on retravaille ça différemment pour les réincorporer ensuite en faire une fermentation. Bon, il y a plein de petites cuisines comme ça, voilà, ça peut se goûter bien. Mais en tout cas, si on ne fait pas ce phénomène, si on n'arrive pas à maîtriser ce phénomène de clarification, on a des jus qui vont fermenter en 2-3 jours. Et en 2-3 jours, c'est plié. La fermentation alcoolique est terminée. Il n'y a plus un gramme de sucre et on a perdu la plupart des choses intéressantes. Par contre, si on maîtrise bien ce phénomène de clarification, la pectine qui a été enlevée du jus de pomme, elle a amené avec elle tout un tas de matières nutritives pour les levures qui, du coup, ne pourront pas se développer à fond les manettes. Hein. Les levures sont des organismes vivants. Comme tous les organismes vivants sur Terre, ils ne pensent qu'à deux choses, hein, manger et se reproduire. Voilà, c'est un vaste programme, mais en tout cas, c'est ce qui compte. Et donc, si on les prive un petit peu d'énergie, manger, elles vont savoir faire, se reproduire, bon, elles vont voir ça après. Hein, voilà. Donc, elles vont travailler un petit peu, se reproduire un minimum, mais vivoter, et donc faire une fermentation lente. La fermentation lente, elle donne le sourire au cidrier parce que là, du coup, en goûtant tous les jours, à chaque fois, il y a des arômes qui apparaissent. Ça se fait lentement avec le temps. On n'a pas 2-3 jours de fermentation, on a 2-3 mois minimum. Voilà, voire beaucoup plus.
D'accord.
Voilà. Et après, donc, c'est une histoire d'accompagnement de la fermentation. On peut faire des soutirages qui permettent de ralentir aussi un petit peu cette fermentation si elle est encore un petit peu trop violente, amener de l'air s'il y a besoin, si ça commence à réduire un peu, enfin voilà, c'est toute une cuisine de chez. Voilà, mais en tout cas, le moyen le plus sûr, c'est de goûter tous les jours et de voir un petit peu ce que ça peut devenir.
Quand cette fermentation est finie, qu'est-ce qui se passe?
Alors, cette fermentation, elle peut être finie pour deux raisons, soit parce qu'il n'y a plus de sucre,
soit parce que les levures...
Exactement, voilà. Soit parce qu'elles ne peuvent plus continuer à fermenter. Donc ça veut dire que ça peut être sec ou pas. Donc, alors la question était la bulle aussi tout à l'heure, et c'est très lié à ça. En fait, si c'est sec, pour faire de la bulle, c'est plus possible. Voilà, parce qu'il n'y a plus de sucre à fermenter, parce que la bulle sera le résultat d'une refermentation dans la bouteille.
C'est-à-dire que les levures vont consommer le sucre, dégager du CO2, et bim, on a une bulle.
Ouais, c'est ça. Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à le maîtriser, parce que ça peut être soit trop peu présent, soit trop. Voilà, il faut qu'on soit un petit peu au milieu. Pour ça, il faut essayer de compter sur la dynamique des levures, qui ne sont pas trop faibles, qui ne sont pas trop virulentes. Voilà. Et ça, c'est de l'observation. C'est certaines variétés qui permettent de calmer d'autres. Voilà. On joue aussi sur l'aspect variétal et l'aspect terroir. Voilà. Une même variété sur les schistes, sur les grès, sur les dolomies, sur les, voilà, ça ne donne pas la même chose. Voilà. Pour nous, c'est hyper intéressant. On a plein de petites parcelles. On a 4 hectares à nous, mais on ramasse aussi chez les gens. Je fais le parallèle avec notre petite histoire à nous. Je parlais des Golden et tout ça. On les a toutes fusillées, on a tout arraché. Le banquier est sous camisole depuis. Mais en tout cas, on a remplacé petit à petit par toutes les variétés qu'on a trouvées à droite à gauche. Et là, le truc qui nous a vraiment fait vibrer, c'est de voir, de constater que finalement, des variétés qu'on pensait différentes, une en haut, une en bas, ou alors une au nord, une au sud, enfin j'en sais rien, finalement, rendu sur une même parcelle, quelquefois on s'aperçoit que c'est les mêmes variétés. Donc, on en déduit que l'aspect terroir, il est hyper important. Une même variété sur des sols différents va s'exprimer différemment. Comme on a toute une mosaïque de parcelles, c'est génial. C'est compliqué, mais c'est génial, parce que là, on va tout morceler dans le chai. On va faire des cidres différents, ou des vins de pommes différents. Et en fin de fermentation, on va pouvoir faire des assemblages qui vont nous permettre de garder un fil conducteur sur chaque cuvée, mais qui vont nous permettre d'amener aussi la personnalité du millésime, voilà, en puisant sur telle variété de telle parcelle plutôt que telle autre, ou alors justement, juste un petit pet de celle-là dans les autres, ça va amener ce qui nous manquait, enfin bon, voilà, tout un truc comme ça. Voilà.
Et c'est quoi le vin de pomme?
Alors le vin de pomme, c'est du cidre. Sauf que, si je dis cidre, le cerveau, surtout le cerveau français, il pense bulle. Et généralement, quand il pense bulle ou cidre, derrière il pense crêpe, il pense chandeleur, voilà, il pense Bretagne.
Ouais, on ne pense jamais Pays Basque.
En fait, vin de pomme, bon, comprenons bien, enfin, le cidre, c'est très français. Le mot cidre est très français. Et c'est un tout petit arbre ridicule qui cache une forêt immense, une jungle. Et en fait, la cidrification, on a tous les mêmes principes. Mais les règles du jeu seront différentes pour chacun. Un peu comme les vins, mais puissance 100. C'est que les vins, on connaît un petit peu les règles du jeu, on connaît les problèmes qu'on peut avoir. Voilà, le vin, c'est très étudié, très maîtrisé, tout ça. La pomme, il y a un côté complètement fou. Et ce qui est vrai pour quelqu'un ici en Pays Basque n'est pas vrai pour le pote en Bretagne ou en Savoie, en Normandie, voilà, partout, c'est pareil. Et donc, bon, c'est une richesse, c'est génial. Donc voilà. Mais il faut rester à l'écoute, il faut rester modeste. C'est les fruits qui commandent. Voilà. Et donc, le vin de pomme, c'est la traduction de l'expression qu'on a trouvée, nous, sur certaines des pommes qu'on a ici en Pays Basque, qui nous permettent de travailler le cidre sans aller sur la bulle. Voilà. Le vin de pomme, c'est un terme. Alors déjà, c'est la traduction littérale du mot chagarnois en basque, qui traduit cidre, chagarnois, mais chagar à la pomme, arnois le vin. C'est la contraction des deux termes, chagar, arnois, vin de pomme, littéralement. C'est la même chose qu'en Allemagne, du côté de Francfort, où il y a une vraie culture de la pomme. Là-bas, les gens vont vous demander soit cider, soit Apfelwein. Voilà. Donc la notion très française du mot cidre, elle est vraiment culturelle. Voilà. Et tout ça pour expliquer que cet aspect vin de pomme, il est culturel d'une part, mais il est un peu universel. C'est qu'on peut faire un peu ça partout, mais avec certaines variétés qui vont en fait arriver à un certain stade de fermentation, soit au bout des sucres, soit au bout de leur énergie fermentescible, voilà, et nous proposer quelque chose de plutôt tranquille, peut-être un petit peu perlé, mais pas sur une bulle prépondérante, voilà, c'est pas un truc qui va mousser, c'est peut-être un truc qui aura une jolie petite fraîcheur, un joli petit carbonique en bouche, mais pas plus, voire complètement tranquille. De se détacher du terme cidre, c'est une petite astuce, tout simplement, on pourrait l'appeler comme ça, qui permet de rester ouvert, de se faire plaisir. Parce que voilà, J'évoquais tout à l'heure la voie toute tracée qui part du consommateur jusqu'à la crêpe en passant par le cidre. Mais en passant par le cidre, avec ses aspects veines de pomme, ses aspects cidrins, ses aspects régions, ses aspects terroirs, ses aspects variétaux, ses aspects humains, ça permet tout un monde, voilà, toute une flopée de gens et de plats autour d'une table. La pomme, c'est extraordinaire, c'est d'une richesse incroyable. On n'est pas forcément tenu de se lier au sucre. Voilà, il y a des cuvées complètement sèches et qui sont d'une rondeur et d'une sucrosité extraordinaire, qui viennent d'autre chose que du sucre, hein, ça vient voilà, de la rondeur, des tanins, de l'expression, voilà. Et puis, il y a des vins de pomme qui peuvent être moelleux, parce que là, il y a une telle concentration, une telle puissance, qu'à un moment donné, les levures, elles vont canner, elles n'arriveront plus à travailler plus longtemps. Et donc elle s'arrête, il reste encore du sucre, c'est moelleux, mais c'est riche, et ça ne sent pas que la pomme. Voilà, il y a plein d'autres expressions, voilà. Et ça on le trouve dans plein de cuvées, un peu partout. Nous on s'est amusé à en travailler des cuvées comme ça, parce qu'on a senti que dans nos variétés il y avait des choses extraordinaires à puiser là-dedans, surtout dans les variétés tardives. Il y en a une qui s'appelle Erich Agara, c'est la pomme des malades. On la trouve souvent près des anciens hospices de Saint-Jacques de Compostelle. Elle s'appelle comme ça parce que les pèlerins, à partir du mois d'octobre, ils arrêtaient de venir parce qu'ils ne pouvaient plus franchir les Pyrénées à cause de la neige. Donc, ils revenaient plutôt en avril. En avril, on n'a pas encore de fruits de l'année. Par contre, ces pommes de l'hiver dernier, là, elles se conservent très bien, elles sont très dures. Physiquement très dur au début, hein, voilà, donc elles ne s'abîment pas. Par contre, on les regoute au mois d'avril, elles ont un petit peu flétri, et là, ça ne sent pas la pomme, ça sent la nèfle, le coin, la poire, la pomme évidemment aussi, il y a presque un petit côté caramel, un peu agrume, voilà, c'est d'une complexité, d'une richesse phénoménale. Donc, à nous, puisqu'on a envie de travailler autour des cuves et puis d'en proposer dans les verres, eh bien, de voir comment ça peut se traduire sous sa phase liquide, donc voilà, à partir du jus jusqu'au vin de pomme. Et là, on voit qu'avec certaines variétés, ça marche, elle s'exprime. Nous, on n'est que des... On essaie d'amener une expression qu'on a trouvée sur les fruits et puis de la traduire. Quoi. On est, je ne sais pas, c'est une notion de passage, quoi, de transmission, voilà, c'est tout.
Justement, est-ce que tu peux nous présenter ta gamme? Comment tu fais?
Ouais, bon, la gamme. Il y a les vins, voilà, on travaille. Il y a la petite vigne qui nous a permis de démarrer, c'est du Tanat, c'est un Iroulégui. Il s'appelle le Louroumea, l'enfant de la terre. Ça permet de traduire cet aspect parcellaire. Hein, hein, voilà, c'est la parcelle qui fait le vin, nous après on fait ce qu'on peut. Voilà, donc l'enfant de la terre, le Louroumea. Ensuite, Elotachuna, c'est un vin qui est en dehors de l'appellation, qu'on a travaillé avec du Marcelan. Un grenache Cabernet Sauvignon, enfin, c'est un métis, hein, voilà, c'est pas un assemblage. Le cépage Marcelin est un métis. L'idée de métissage nous avait bien séduit parce qu'il y a souvent que du bon qui arrive, le papa, la maman donnent ce qu'ils ont de mieux. Et puis c'est une parcelle qui est déjà un petit peu métissée. On est sur des vieux grès assez jeunes qui sont arrivés comme ça depuis la colline au-dessus sur une roche mère calcaire. Qui est assez profonde. Alors pour l'instant, c'est un petit peu présomptueux de dire que les racines vont puiser dans le calcaire au fond. On en reparlera dans 30 ou 40 ans. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de métissage, de mixité. Voilà, on aimait bien ça et on s'est dit que tiens, le cépage aussi pouvait nous parler quoi, avec ça. Et ensuite, voilà, mais ouais, si on reste sur le vin, une autre expression du tanat. De la parcelle qui fait l'Urumea, c'est le Dioko, c'est un vin doux naturel. Quand le tanat est capable d'aller sur une belle surmaturité, on renonce à l'appellation, on laisse surmûrir la vigne, on ramasse 2-3 semaines trop tard. Le tanat, j'en parlerai vite fait après, mais c'est un gros nounours, hein, voilà, il a plein de choses à donner, tout doucement, voilà, il arrive gentiment. Mais en tout cas, c'est loin d'être un gros rustique comme souvent.
On lui met une étiquette.
Ouais. Ouais, et c'est rien de ça. Voilà, le tanat, quand il est mûr, c'est d'une rondeur extraordinaire. Voilà, c'est du velours. Voilà. Et quand c'est trop mûr, Pour faire un vin sec, c'est quelquefois un petit peu trop chaleureux. Mais par contre, pour travailler en vin doux naturel, c'est génial. Voilà, c'est vraiment un bouquet de fruits là. Voilà. Et alors, vin doux naturel, c'était bien dans l'idée, on adore ça. Mais on fait le mutage, donc on stoppe la fermentation avec l'ajout d'une eau de vie de pomme, tant qu'à faire, puisqu'on ne voulait pas mettre une eau de vie qu'on ne connaissait pas, c'est ça. Donc c'est l'eau de vie de pomme de la maison. Chaque année, on distille un petit peu, les lits, les trucs comme ça, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Là. Voilà, on en fait des eaux de vie, on les élève, et puis quand c'est prêt, et puis quand le Tanat nous propose cette version-là, paf, on l'utilise, voilà, et là, c'est un petit peu le mariage de nos deux métiers. Okay. Voilà. Bon, et après, la pomme, à proprement parler, alors les veines de pomme, il y a Chalaparta, qui est une cuvée qui est travaillée avec deux variétés. Il y en a une qui est un petit peu tannique avec une belle acidité, Apeche Chagara. Et puis l'autre, Estica, qui amène une belle rondeur, une petite amertume en fin de bouche, et puis qui a une aromatique assez sympa. On travaille ça sur un roulement entre des barriques et une amphore. L'amphore amène de l'oxygène. Elle permet aussi un travail avec les lits, un mouvement naturel qui est, voilà, c'est une amphore de 400 litres là. Les barriques qui nous permettent de travailler les lits d'une part et puis d'appuyer un petit peu sur une famille aromatique qui est présente dans la pêche agara. C'est tout ce qui touche un petit peu au grillé, au fumé, voilà, un petit peu le sous-bois sec, les feuilles qui craquent là, voilà, un côté un petit peu anisé, un petit peu toasté, voilà, voilà. Sur le côté très pomme d'Estica, ça marche bien. Et donc les barriques et l'amphore travaillent bien tout ça, ça nous permet de les accompagner, quoi, voilà. C'est complètement sec, voilà, ça s'appelle Chalaparta. C'est l'évocation. Chalaparta, c'est le nom d'un instrument de musique qui se joue à deux et qui est en bois. Ben là, c'est deux variétés de pommes sur le bois de la barrique. Donc okay. Voilà, comme on est hyper inspiré, c'est comme ça. Oreca, c'est l'équilibre, mais bon, on en a plus actuellement. Là, c'est un vin de pomme aussi qui est sec, qui est sur le fruit, voilà, sur la gourmandise. Bon, voilà, on a tout bu. Donc voilà. Mocofine, c'est le gourmet, la fine gueule. Alors ça c'est des tardives, j'ai évoqué un petit peu ça tout à l'heure, c'est un vin de pomme moelleux, voilà, on est à 80 g de sucre résiduel, à peu près à 7 degrés d'alcool, la fermentation s'est arrêtée toute seule, voilà, parce qu'il y a une telle complexité, une telle concentration que les levures ne sont pas capables d'aller plus loin. Ça c'est travaillé avec des pommes qui ont pris plusieurs fois le gel.
Donc, un cidre de glace.
Un peu, mais c'est par respect pour les Canadiens qui font des super cidres glaces ou les Suédois, là, ils font des trucs géniaux. Puis là-bas, bon, eux, ils peuvent, il fait moins 20, moins 30 quand nous, on est encore en short. Bon, je préfère être en short à la limite. Mais en tout cas, on n'a pas le froid qui permet d'aller aussi loin que les cidres de glace tels qu'on connaît chez nos copains nordiques. Par contre, il y a déjà cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a une surmaturité et une évolution du fruit grâce au froid. Les fruits ne sont pas gelés, mais ils ont pris le gel, ils ont évolué avec ça. Et là, la palette aromatique, elle s'est ouverte, et c'est ça qui est génial. Voilà. Donc, c'est, voilà, il y a une grosse gourmandise là-dedans. Il y a des accords, mais vins sensationnels. Voilà. On partirait naturellement sur des desserts, mais on goûte ça sur des poissons gras, la truite de Banca qui est pas loin, ou simplement un saumon gravlax, un truc comme ça. Voilà, c'est génial avec un petit pickle de légumes pour jouer sur l'acidité parce qu'il y a une super acidité sur ces pommes là. Bref, tout ça pour dire que nous on fait rien, tout est dans les fruits, quoi. Voilà, franchement, il n'y a pas de secret. Après, il y a les cidres à proprement parler, Bachalian et Bachandele, qui sont deux personnages de la mythologie basque. Bachalian, ça veut dire l'homme sauvage. C'est un gros bourrin, il est énorme, il est poilu, moitié homme, moitié bouc. Quand il descend de la montagne, parce que forcément il vit là-haut, c'est pour tout casser, pour manger les enfants, pour voilà, essayer, et puis il est bête, comme, voilà. Mais il a un côté sympa quand même, il aime bien la bonne bouffe et les bons moments, donc il suffit de lui laisser une bonne assiette et un bon verre de cidre ou de vin, il est tellement content qu'il nous fait tout le boulot dans les parcelles, donc de nous on ne fout rien, et voilà. Ce cidre-là, il est un peu comme ça, c'est un brut, un peu sauvage, voilà, il arrive comme ça, on a l'impression qu'on va se faire dézinguer. Et puis finalement, on y revient, finalement, même le magnum est un petit peu trop petit, parce que ça se boit facilement, il y a une grosse gourmandise, c'est fruité, il y a une richesse de ces pommes-là, bon, il y a un gros assemblage de pommes, là, on est autour d'une vingtaine de variétés, notamment sur à peu près trois parcelles là, qui sont intéressantes, voilà. C'est-à-dire qu'il nous faut des tanins, mais pas trop, on n'a pas de tanins amers, nous, ici, on n'est que sur des pommes, la plupart des pommes, à part deux ou trois, sont plutôt acidulées. En Pays Basque, voilà. En tout cas pour ce qu'on a trouvé dans le coin ici, en Pays Basque Nord. Voilà. Côté sud, en Guipuscoa, il y a des belles amertumes, tout ça, voilà. Mais voilà, on est encore sur des terroirs différents. Le Pays Basque est hyper vaste. Voilà, c'est le centre du monde, mais il est grand. Donc voilà, nous ici, en Pays Basque Nord, sur nos petites collines, on n'a que des pommes acidulées. Et c'est Bachaillan m'exprime bien ça. Il y a ce côté tendu, franc, voilà. Mais finalement, c'est tellement fruité qu'on y revient. C'est un bon pet-nat. Voilà, hyper désaltérant, dangereux. Voilà. Ensuite, Bachamélé, là, c'est alors la dame sauvage. Dans la mythologie, c'est toujours une jolie fille. Elle vit à la limite du monde souterrain, du monde aérien. Il y a beaucoup de gouffres et de grottes, là, dans les massifs calcaires notamment. Voilà. Elle vit là. Elle se démêle les cheveux avec un peigne en or, parce qu'elle est super forte, parce qu'elle maîtrise aussi l'or, les minéraux, tout ça. Et les cheveux, cette chevelure inextricable, là, c'est un peu le symbole de la nature, indomptable, impénétrable, tout ça. Et comme elle est très très mignonne et que nous on aime bien se balader en montagne, il y a toujours eu des hommes ici, depuis le néolithique au moins, il y a des traces de vie, des traces de pastoralisme, voilà, il y a des trucs, on n'a pas encore tout compris, voilà, mais il y a du monde en Pays Basque depuis très très longtemps. Certainement que ces croyances sont liées aussi à cette histoire là et alors dans les histoires Bachamélé à chaque fois c'est elle qui a le dernier mot. On se laisse avoir, elle est pleine de malice, elle nous fait les yeux doux et puis voilà, on s'en va, on ne nous retrouve plus finalement. Bachamélé en cidre, c'est un peu le même esprit, c'est gourmand, c'est facile à boire, il y a un petit peu de sucre résiduel, voilà, ça se boit tout seul, c'est désaltérant, sur un dessert à 4h, à 8h du matin, quand vous voulez, n'importe quand, c'est toujours bon, ça sent la pomme, c'est acidulé, il y a des côtés très poires et tout ça, c'est génial, bon, sauf qu'au bout d'un moment, on invente les chansons sans le vouloir, il y a autant d'alcool que dans l'autre, on ne l'a pas vu venir, quoi, tout simplement. Voilà, et après, ouais, il y a deux cuvées dont je n'ai pas parlé encore, mais j'en parle, c'est important. Biotz, qui est un vin de pomme oxydatif. Alors, Biotz, je vous explique le mot. En un mot, Biotz, ça veut dire le cœur. Parce que c'est un peu le cœur de la pomme qu'on a mis dans ces bouteilles-là. C'est des pommes très tardives, un peu les mêmes que Mocofine, mais beaucoup plus poussées. On ramasse ça vers fin décembre. On ne le fait pas tous les ans. Il faut à peu près 12 kg de pommes pour faire 50 cl. Parce qu'on est des gros tricheurs. Et que comme il ne fait pas très très froid chez nous, on a fait geler le jus après le pressoir. On le fait geler et tout ce qui est de l'eau, ça gèle à 0 degré, donc on l'enlève. Petit à petit, le volume se réduit. Et puis finalement, ce qui reste, on le met en barrique. Les barriques ne sont pas pleines, donc ça fait une fermentation oxydative pendant à peu près un an et demi. Contact de l'air dans des barriques avec un joli creux là, juste un torchon dessus pour pas qu'il y ait d'intrus. Et voilà, donc ça prend un côté un peu noir, un peu. Voilà. Et. Voilà, une pomme évoluée, ça, si vous êtes un petit peu gourmand, si vous trouvez des belles anguilles, vous les faites rôtir un petit peu au four en 5 minutes. Quand c'est quasiment cuit, vous y mettez une tranche de foie gras pour aller en coupant l'anguille en deux, là. Voilà, et vous remettez ça au four, 5 minutes de plus, et vous vous cassez la bouteille de Biotz avec. Après, franchement, voilà, c'est un bon petit moment. Voilà, ça, c'est chouette. Par contre, il y a 90 grammes de résiduel. Voilà, c'est sur la sucrosité, la rondeur. Par rapport à Mocofine, qui est l'assemblage de variétés similaires, Mocofine, on va chercher la tension, l'acidité. Biotz, on va chercher la rondeur, les tanins, quoi. Voilà, c'est des proportions différentes de l'assemblage. Et puis, une cuvée qui est hyper importante pour nous, c'est le jus de pomme. Chagarlolé. Chagarlolé, c'est un jeu de mots... Ça veut dire un peu le nectar de pomme, l'élixir de la pomme, voilà. Et sinon, chagar, la pomme, l'olé, la fleur. Bon, voilà, mais ce serait trop long de vous expliquer vraiment comment fonctionne ce jeu de mots. Voilà, mais c'est mon père qui a trouvé, et bon, voilà, et voilà, je respecte. Voilà, le vieux a parlé, on écoute. Voilà, et voilà, après j'ai fait le tour des cuvées, et puis c'est jamais une page
fixe,
non, voilà. Et puis, suivant les millésimes, on s'adapte, il y a des cuvées qu'on ne peut pas travailler certains millésimes. Voilà, bon, en général on a toujours les cidres, mais les vins de pommes il faut vraiment des conditions particulières, voilà, quel que soit le vin de pomme, hein, voilà.
Et tu peux nous donner une notion de prix de ta gamme, une fourchette?
Ouais, ça va de 7-8 euros jusqu'à 7-8, 10-17, voilà. Le Biotz s'envole un petit peu parce que c'est un peu compliqué à faire, ça vaut à peu près 34-35 euros, voilà. Bon, mais c'est un petit délire, ça, voilà. Et il y a le tout pour tout le monde.
C'est parfait. Merci beaucoup.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous nous laisser vos commentaires sur la page Instagram de l'émission.
Boom, 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 boom.